Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un des livres peut-être les plus importants sortis cette année, puisqu'on va parler de Kanaki, édité par Actes Sud. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est en partie parce que l'auteur, Joseph Andras, refuse les interviews, refuse la médiatisation, comme il a refusé le Goncourt du premier roman qui lui a été attribué pour son précédent livre, De nos frères blessés. Néanmoins, Joseph Andras a accepté de répondre à mes questions par échange de mail. Vous pouvez donc retrouver cette interview à la page du Réveil culturel sur franceculture.fr. Mais aujourd'hui au studio, c'est le journaliste Edwy Plenel qui est avec nous pour parler de Kanaki et surtout du sujet de ce livre enquête, c'est-à-dire la personnalité d'Alphonse Dianou, le militant indépendantiste kanak tué lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa le 5 mai 1988. Pour écrire son livre, Joseph Andras a rencontré les témoins de l'époque, c'est-à-dire la famille d'Alphonse Dianou, ses compagnons de lutte et leurs héritiers dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Et avec le recul, il dresse un portrait du militant qui contraste, c'est le mot que l'on puisse dire, avec celui dressé par la presse française à l'époque de la prise d'otage. Edwy Plenel, reporter au Monde, n'était pas sur place au moment des faits, mais il a enquêté sur cette prise d'otage, il a enquêté aussi sur Alphonse Dianou. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Claire Levasseur.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Edwy Plenel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir ce matin pour parler de Kanaki, le dernier livre de Joseph Andras, édité par Actes Sud. Alors, vous connaissez Joseph Andras, vous avez lu même son précédent roman, De nos frères blessés. On peut même mettre en valeur le fil rouge qui lie le deux livres.
Il faut rendre hommage à cet auteur caché, hein, cet auteur, on ne connaît qu'une photo de lui.
Et encore, il est de dos.
Et on ne peut communiquer avec lui que par mail. C'est un jeune auteur. Et c'est un jeune auteur qui a choisi de tirer le fil de ce que, en termes shakespeariens, on appellerait des spectres, des fantômes, qui nous habitent, qui sont là, qui sont ceux de la question coloniale. Le premier livre est autour de Fernand Yvetot, ce militant communiste qui fut guillotiné en 57 à Alger, parce qu'il avait épousé la cause indépendantiste, il n'avait rien fait. Il n'avait tué personne, il n'avait commis aucun attentat.
La bombe qu'il a posée n'a eu pour effet que quelques dégâts matériels.
En tout cas, voilà. À partir d'Yvetot, il a commencé à tirer ce fil qu'il poursuit aujourd'hui avec l'actualité, pourrait-on dire, de la question coloniale. L'Algérie, c'était il y a plus de 60 ans. Et avec Kanaki, donc sur la Nouvelle-Calédonie et sur ce moment de fureur, ce massacre colonial, car il faut bien appeler les choses par le nom, que fut le dénouement de Ouvéa. Deux petites précisions, comme ouais, nous l'avons révélé à l'époque, j'ai le livre qui rassemblait l'enquête que j'avais faite, « Mourir à Ouvéa », qui est paru en septembre 1988. Au minimum, à l'époque, nous disions qu'il y avait eu au minimum 5 corvées de bois, c'est-à-dire 5 personnes qui ont été faites prisonniers vivants, Dianou était blessé, et qui ont été achevés, tués, ou achevés dans le cas de Dianou, y compris à coups de savate, pourrait-on dire, après. Depuis, un confrère, Jean-Guy Gourson, et Joseph Andras le rencontre et a utilisé son travail, a établi l'ampleur encore plus de ce massacre. Et en revenant sur des choses que j'avais révélées à l'époque, qu'on a oubliées, c'est qu'avant le massacre même, il y a eu des tortures avec des matraques électriques. Bref, il y a eu, et nous en parlerons peut-être, une vraie fureur coloniale. Et l'autre précision que je voudrais donner, j'ai mené cette enquête à partir d'une photo. J'étais à Paris et j'ai cette photo sous les yeux. C'est la photo parue dans Paris Match, après le dénouement de cette prise d'otage au moment d'une élection présidentielle, celle de 88, qui opposait Mitterrand à Chirac. Et je vois sur cette photo une image qui me terrifie. On voit ces indépendantistes kanak et on reconnaît à sa blessure que c'est Dianou qui est là avec un bandage blanc et on voit les autres face contre terre, lui est sur une civière et on voit tous ces militaires blancs français qui sont là et qui rigolent et qui sont face à... C'est une image terrible, on a l'impression d'être à la guerre du Rif, on a l'impression, il en parle, d'être à l'insurrection d'Ataï en 1878. Mon enquête a commencé par là, à Paris, a commencé en demandant aux avocats, parce qu'ils étaient détenus en France, de faire reconnaître qui étaient les autres là. Ils étaient dans des cellules à Fresnes, et d'aller les voir et de leur demander qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, qui, à ce moment-là, Dianou était-il vivant, respirait-il encore
de... Vous allez nous raconter comment vous avez fait votre enquête à partir de Paris, c'était il y a 30 ans, et du Plénel. Mais il faut dire en préambule deux choses. Rappelez, et c'est très important, qu'Andras est un jeune auteur. Il est né en 1984 et comme beaucoup, il a découvert l'histoire de la Nouvelle-Calédonie par la vie et l'œuvre de Louise Michel, donc cette communauté qui a été déportée là-bas, qui a été d'ailleurs une des rares révolutionnaires à prendre fait et cause pour la lutte du peuple kanak. Joseph Andras avait donc 4 ans quand en avril-mai 88, l'affaire de la prise d'otage de la grotte d'Ouvet en Nouvelle-Calédonie s'est soldée donc par une intervention militaire et un bilan de 21 morts dont 19 kanaks. Et parmi eux, Alphonse Dianou, 28 ans, meneur charismatique du Front de Libération Nationale kanak et socialiste. Kanaki, c'est aussi, il faut le rappeler, le nom d'un pays qui s'apprête à décider de son sort la semaine prochaine. Les électeurs de la Nouvelle-Calédonie décideront du maintien ou pas de l'archipel au sein de la République française. Ils devront répondre à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Et ce référendum d'autodétermination du 4 novembre concernera quelques 174 000 électeurs de l'archipel. Archipel français depuis 1853. Il intervient donc 20 ans après l'accord de Nouméa signé en 1998 par l'État, mais aussi avec les indépendantistes, les non-indépendantistes. Et c'est ça qui a mis en œuvre ce processus de décolonisation par étapes. Et si le oui l'emporte, Kanaki donc passera de l'autonomie à la pleine souveraineté. Si le non l'emporte la semaine prochaine, l'accord prévoit que deux autres référendums puissent être organisés d'ici à 2022. Alors, on ne va pas parler de ce référendum.
Sinon, pour dire que ce sont les événements de 88
absolument.
Qui ont, je dis, toute paix et oublieuse dans le livre que j'avais publié en 88, c'est-à-dire c'est ces événements et nos révélations à l'époque qui font que la France n'avait pas les mains propres dans cette histoire et qu'il y avait eu aussi cet assaut qui a amené à ces accords sur lesquels, aujourd'hui, les habitants de Nouvelle-Calédonie doivent se prononcer.
Dans l'île d'Ouvéa, aucune évolution notable quant à la situation des otages retenus par un commando indépendantiste dont on connaît mieux maintenant le chef. À Nouméa, Dominique Delaroy.
Tous ceux qui ont connu ici de près ou de loin Alphonse Dianou n'en reviennent pas. Âgé de 27 ans, le chef présumé des ravisseurs d'Ouvéa a toujours été apprécié pour ses qualités humaines et son profond sens religieux. À Poïta, où il fait sa scolarité, il n'a laissé que de bons souvenirs. Et en plus, il savait jouer au foot avec notamment Antoine Boiret, aujourd'hui en première division à Nantes. Ensuite, il entre au grand séminaire du Pacifique Sud de Suva, aux Fidjis. Et puis, c'est la cassure. Après 3 ans d'études et de réflexion, il abandonne tout et revient en Nouvelle-Calédonie, où il anime des comités de quartier. À cette époque, il est indépendantiste, mais farouche apôtre de la non-violence. Des exemples de l'histoire, écrit-il en octobre 87 dans la revue catholique Missy, montrent que la libération par les armes amène souvent au pouvoir un autre gouvernement qui devient dictateur, tandis que par la non-violence, poursuit-il, on s'entraîne à la discussion et au consensus. Aujourd'hui, Alphonse Dianou rumine peut-être ses phrases aux côtés des 23 otages qu'il détient toujours.
Et nous sommes donc avec Edwy Plenel. Edwy Plenel, qui, vous avez travaillé sur cette affaire, vous avez même écrit « Mourir à Ouvéa », le tournant calédonien, en collaboration avec Alain Rollat, qui est sorti la même année aux éditions La Découverte. Alors là, on a entendu le compte-rendu de France Inter, mais la presse à l'époque avait une toute autre idée d'Alphonse Dianou. Je vous propose d'écouter juste un extrait de Kanaki de Joseph Andras.
J'ai recensé l'ensemble des qualificatifs employés par tout ce que l'édition francophone a publié à ce sujet en bientôt 3 décennies. Alphonse Dianou apparaît tour à tour comme un illuminé, un vrai, un hystérique faisant preuve de cruauté et doté d'une hargne légendaire, un sous-officier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Un être colérique en proie à des sautes d'humeur, un général de brigade. Un illuminé dans un état de haine permanent, capable d'exterminer sans autre forme de procès, un journaliste à France Inter. Une sorte de fou de Dieu, le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Un fanatique, un officier général de gendarmerie et un parachutiste des troupes de marine. Un brillant orateur avec un faux air de Bob Marley, un sous-officier. Un homme mélancolique, un peu maniaco-dépressif, charismatique, intelligent, sincère mais perdu. Un ancien patron du GIGN. Un militant inflexible, un reporter. Un disciple de Gandhi, un philosophe. Un illuminé aux yeux rouges injectés de sang, possiblement drogué. Un vercingétorix noir qui se prend pour le légendaire Attai et se rêve en grand sorcier. Un journaliste passé, lui, d'Europe 1 à Paris Match. Un doux rêveur plutôt paisible, un homme idéaliste et généreux, engagé dans une dérive désespérée, celle du sentier de la guerre. Deux journalistes du Monde, dont Edoui Plenel. Le portrait n'est pas fameux. Marbre des statues repassera.
Et du Plenel.
J'assume totalement. Non, le portrait, en l'occurrence, est très conforme. Je parle de ce que j'avais écrit à l'époque. Comme c'était rappelé d'ailleurs par petit reportage de France Inter, et comme la plupart de ces figures du mouvement indépendantiste kanak, ce sont des gens pas seulement épris de nos religions monothéistes. Vous savez, il y a une formule en kanaki, la terre et le sang des morts. Il y a une forme de religiosité profondément imprégnée de tradition d'animisme, de lien à la nature, aux ignames, à tous les rituels.
Comment êtes-vous arrivé à dresser le portrait d'Alphonse Dianou?
Moi, j'ai pas dressé de portrait, j'ai juste dit que, justement, il faut préciser les choses. Le problème n'est pas les médias dans ce contexte-là. Il y a un homme qui est Premier ministre et qui dit la barbarie de ces hommes, si l'on peut les appeler ainsi. Cet homme, qui aujourd'hui n'a plus toute sa tête, est vu avec le temps comme l'amoureux des sociétés premières,
Jacques
des
Chirac,
arts premiers. Jacques Chirac, l'homme qui a son nom au Quai Branly. Et cet homme illustre ce qu'a dit Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme, c'est que quand on rentre dans une logique coloniale, on se barbarise soi-même. À voir les autres comme des barbares, on se barbarise soi-même. Et donc, j'ai beaucoup connu de militants kanak et de militants indépendantistes, et j'en connais toujours. J'ai un très bon ami qui a fait des très bons films, y compris sur Attai, qui est Mehdi Lalaoui, et qui vit souvent en Nouvelle-Calédonie. Et donc, Dianou était, comme nombre d'entre eux, un idéaliste, en effet. Des idéaux de dignité, vivre souverain, vivre respecté, ne pas être méprisé, ne pas être vu comme un barbare, ne pas être caricaturé, avoir au fond le respect de toute son histoire, rappelez-vous.
Et mais je vous êtes juste engagé dans une dérive désespérée.
Mais bien sûr, la question, le colonialisme pousse. Mais rappelez-vous l'Algérie, Ferhat Abbas, vous croyez qu'il voulait la guerre? Ferhat Abbas, il voulait une solution pacifique, comme beaucoup des fondateurs du FLN. Le colonialisme, par son intransigeance, pousse ce qu'il domine à cette dérive désespérée. Pourquoi j'en parle avec passion? N'oubliez pas toutes les dimensions de ce drame. Que se passe-t-il un an après? À Ouvéa même, les deux figures du mouvement indépendantiste, que sont Jean-Marie Tjibaou et Yewene, deux hommes, des belles personnes, sont assassinés par Djoubeli Véa de la tribu de Gossana, l'un des derniers qui restait et qui était un peu le penseur, l'aîné par rapport à Dianou. Et Djoubeli Véa, lui, était de culture plutôt protestante. Il était très croyant, lui aussi. Et lui, il va retourner les armes contre ses frères. Vous savez, il le dit, comme dans C'est une déchirure, il commence par une scène dans Kanaki, à Nouméa, il rencontre un homme de 66 ans, mon âge, qui lui dit combien Dianou est son héros, toujours. Mais il dit combien ça reste une blessure, une déchirure, y compris dans le camp kanak. Pourquoi? Parce que de cette violence qui s'est déchaînée où il y a eu ces jeunes martyrs, il y a un côté christique dans l'histoire de Dianou, et Joseph Andras en fait un tombeau pour lui, un tombeau qui, et ça se termine sur sa tombe de croyant chrétien avec Jésus présent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un an après, l'une des conséquences de cette violence coloniale a été de déchirer les Kanaks eux-mêmes. Djoubeli Véa, ayant eu le sentiment que les preneurs d'otages de Gossana avaient été abandonnés, a retourné les armes, non pas contre la puissance coloniale, mais contre les deux leaders principaux du FLNKS et a été tué à son tour. Il y a eu une histoire très émouvante en Kanaky, qui est la réconciliation entre les tribus, parce que Tibaou est de la Grande Terre, du Nord, où Véa, c'est une petite île, et ils ont fait... Voilà, comme il y a eu d'ailleurs ça avec les gendarmes. Vous savez que les gendarmes français, les familles des gendarmes français, sont venus à Ouvéa, et il y a eu des cérémonies de réconciliation. Vous savez ce qu'on appelle la coutume en Kanaky, et il faudrait qu'on apprenne de cela. Ce qui a été très bouleversant, bien sûr qu'il y a eu plein de sottises journalistiques, mais le vrai événement, ça a été la violence politique. Monsieur Ponce doit se terrer. Monsieur Bernard Ponce, qui était ministre de l'Outre-mer, le général Vidal, qui voulait carrément larguer sur la grotte une bombe énorme, c'est-à-dire faire un immense trou. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ce que ça a déchaîné. Auriez-vous eu la même chose sur une prise d'otage en Corse ? Par des indépendantistes corses, non. Et là, on est au cœur de quelque chose dont il faut prendre conscience. Quel que soit l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il y a une dette à l'égard de ce peuple. Vous savez, je cours tous les dimanches au Jardin des Plantes. Et à un moment, je fais un salut de la main. À quoi ? À un orme blanc, un arbre. Cet arbre a été planté il y a peu, quand on a rendu la tête d'Ataï à la Kanaky. Elle était perdue. Soi-disant égarée, en fait, elle était là, la tête qui avait été coupée en 1878. Et il y a un arbre, un orme blanc, qui rend mémoire de cela. Vous savez, on parle du climat, on parle de la nature et tout. S'il y a une histoire que nous apprennent les Kanaks, c'est ce lien à la nature. Ils ne sont pas violents, ils ne sont pas meurtriers. On les a poussés dans cette violence par la violence du statut colonial.
Dans Kanaky, Joseph Andras écrit « Le journaliste examine, l'historien élucide, le militant élabore, le poète empoigne, reste à l'écrivain de cheminer entre ses quatre frères ». Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je poserai à ça une expérience d'une journaliste. Et hélas, Joseph Andras a découvert ce travail une fois fini Kanaky. Ouais. Vous savez qu'une journaliste a été pendant un an à Ouvéa, après l'assaut. Et elle a écrit un livre que je recommande, car il est encore disponible chez Gallimard, dans une collection que je dirigeais, qui s'appelle « L'autre monde, un passage en Kanaky ». C'est Anne Tristan, c'est elle qui avait fait au front, sur le Front National. Et elle a été, après l'assaut, elle a vécu pendant toute une année dans la tribu des preneurs d'otages, ceux qui avaient d'où venaient ceux qui ont fait cette prise d'otages, ceux qui ont été torturés pour qu'on les retrouve. Et ce livre, ce serait intéressant, et je regrette que Joseph Andras n'ait pas eu l'occasion de le lire, car c'était la même démarche. C'était la même démarche.
Est-ce que c'est une démarche militante?
C'est une démarche d'engagement, mais moi j'ai toujours défendu le journalisme comme un engagement. L'engagement pour la vérité face à la question coloniale ne peut pas vous laisser neutre. Nous venons de rendre hommage, enfin plutôt, l'État français, par la voix du président de la République, vient enfin de dire, au-delà même d'ailleurs de Maurice Audin, la vérité sur la torture en Algérie. Quand vous êtes en train de révéler que notre République torture, vous pouvez pas dire « je suis neutre par rapport à ça ». C'est une violation des droits humains.
Comment
quand vous voyez un massacre comme celui-là, vous n'êtes pas neutre.
Parce que dans cette interview, Joseph Andras, né en 1984, s'adresse à vous, Edu Plenel, et il vous dit, vous qui avez beaucoup travaillé sur Mitterrand qu'on retrouve dans ces deux livres, hein, il est garde des Sceaux qui refuse la grâce d'Yveton, il est président pendant la prise d'otages en Nouvelle-Calédonie. Il vous dit comment entendre que la gauche réformiste, républicaine, social-démocrate, voire anticapitaliste sur le papier, ait pu à ce point historiquement prêter main forte aux diverses menées impériales. Il s'adresse à vous en tant que jeune, il s'adresse à vous parce que vous avez écrit sur Mitterrand, vous avez écrit aussi sur Guy Mollet.
Non mais moi j'ai fait mon travail qui permet à Joseph Andras aujourd'hui de dire ça. Moi j'ai fait mon travail, je l'ai dit à la face de la gauche, que la gauche qui accepte qu'un peuple en opprime un autre n'est plus à gauche, que la gauche qui accepte de faire le Rainbow Warrior et un attentat en Nouvelle-Zélande...
Plénel, ça c'est des distributions de bons et de mauvais points, mais est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut décrypter pourquoi il y a cette dérive qui revient souvent avec justement cette...
C'est pas une question morale, c'est une question qui est au cœur du débat sur les migrants aujourd'hui. À partir du moment où des forces politiques qui se réclament de l'émancipation et de l'égalité des droits pensent que l'émancipation, c'est d'abord pour notre pomme, et l'égalité des droits, c'est d'abord pour ceux qui nous ressemblent, eh bien à ce moment-là, c'est le début du saut dans l'inconnu, dans l'inégalité naturelle. Alors oui, je vais voter les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, et je suis le Parti communiste qui les vote. Et je les vote pourquoi? Parce qu'on me promet des mesures sociales. Pourquoi? Pour la classe ouvrière française. Mais du coup, au passage, j'accepte qu'on fasse les pouvoirs spéciaux avec tout ce que ça entraîne, les militaires, la torture, contre le peuple algérien. Eh bien, c'est pareil sur la question des migrants, je le dis dans toutes les positions que nous prenons en tant que Mediapart aujourd'hui. De la même manière qu'hier, un peuple qui en opprimait un autre ne pouvait être libre, un peuple qui ne peut pas être au rendez-vous des solidarités élémentaires avec ceux qui viennent du lointain, ne saura plus les défendre pour son prochain.
Et donc c'est le même engrenage. Avec toutes ces illustrations de l'histoire récente, c'est l'histoire du XXe siècle, Mitterrand, pourquoi ce discours n'est pas entendu ou si peu entendu?
Mais il est entendu par toutes les bonnes volontés qui permettent à Joseph Andras, comme d'autres jeunes, de s'accrocher à une longue chaîne de résistance. Maurice Audin était un pied noir. Être pied noir ne voulait pas dire être forcément du point de vue de la puissance coloniale et on pouvait justement ne pas être assigné à résidence. Andras est un jeune blanc français et il va découvrir les Kanaks et prendre position de leur côté. Nous ne sommes pas assignés à résidence. C'est quoi le synonyme de l'émancipation? C'est le déplacement. C'est quoi le synonyme de la littérature? C'est le déplacement. C'est quoi ce que fait Andras entre ces deux livres? Et j'espère qu'il va continuer dans cette veine en revisitant, en foyant ce placard qui est encore trop verrouillé de la question coloniale. Eh bien, il revisite notre présent, pas notre passé. La question coloniale, tant que nous l'affronterons pas hautement, en la regardant en face, eh bien nous ne déverrouillerons pas tout ce qui en grande part immobilise, divise notre peuple. Nous sommes faits de cette histoire, elle a fait notre richesse, elle a fait la diversité de notre peuple, il n'y a pas de repentance à avoir, il n'y a pas de pardon à demander, il y a à faire exactement ce qui était dit dans le texte sur Maurice Audin, vérité de l'histoire et réconciliation des mémoires. Et là, la littérature peut y aider. Et elle existe aussi, pas seulement dans une littérature francophone de France, mais elle existe, et en Kanaky, il y a aussi une littérature, des contes, des films, des artistes. Il y a toute une jeunesse qui s'empare de cela. On ne doit pas se dire que nous serions dans le monopole de la parole, comme il y a une littérature algérienne qui nous a réveillés bien avant, et comme il y a, n'oubliez pas, je les ai cités, Césaire, Glissant, Fanon, ils étaient au cœur et ils parlent une langue formidable.
Kanaky de Joseph Andras est édité chez Actes Sud. Merci Edwige Plenel d'être venu nous en parler. Et l'interview de Joseph Andras est à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Le Réveil Culturel.